News, le magazine de l'immobilier d'entreprise, en coproduction avec le CIMI sur Radio Immo.
Bonjour à toutes et à tous. Enfin, nous nous retrouvons pour ce nouveau CIMI News, une nouvelle formule qu'on a adaptée. Bienvenue à toutes et à tous. On reste ensemble pour une petite heure d'échange autour de l'industrie de la ville avec une thématique sur laquelle nous allons nous concentrer. Et oui, c'est peut-être un peu la dent creuse d'ailleurs, le secteur immobilier accompagnateur des transformations des villes et métropoles à l'aune de ce qui vient de se produire. On sort enfin du tunnel et d'une année assez tragique finalement, avec une lumière qui se pointe. On est tous ravis d'être avec vous, vivement qu'on puisse se retrouver, se faire tous des câlins et partager des bons verres. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les choses repartent et c'est une bonne chose pour l'économie. Voilà, accompagnateur de tout ce qui est transformation de la ville. Voilà pour le pitch, alors pour le casting de cette émission, comme vous le savez, c'est la tradition au CIMI News. On va vous présenter ceux qui sont au cœur du sujet, au cœur du réacteur, pour parler de ces transformations. Voilà, elle est directrice du CIMI et du City by CIMI, c'est Aminata Si qui est avec nous. Salut Aminata.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Ça va bien et toi?
Moi je suis ravi d'être avec vous pour cette nouvelle formule du CIMI News, une nouvelle affiche, une nouvelle dynamique. On en est absolument ravi. Voilà, il a l'accent du Sud et il est en vision avec nous depuis Marseille. C'est Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI de Marseille. Salut Jean-Luc.
Bonjour.
Comment allez-vous Jean-Luc?
Parfaitement bien, et je voulais juste vous signaler aussi pour nos amis que je suis également président des chambres de commerce des métropoles françaises, de la CIM, donc quelques implantations ailleurs, mais on est très bien dans le sud.
Eh bien écoutez, on sera ravis, puisque de toute façon on va se revoir forcément avec grand plaisir pour plein de sujets. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous en duplex. Alors avec nous aussi, quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, qui est aussi quelque part aussi dans l'innovation, qui bouscule les idées reçues, qui transforme aussi la ville à sa mesure. Elle est avec nous, Béatrice Moal. Bonjour Béatrice.
Bonjour Sylvain.
Comment allez-vous?
Très bien.
Je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes la présidente d'ARP Astrans. Si vous le permettez, on va faire une petite entorse à la tradition du CIMI. J'aimerais bien que vous nous présentiez un peu plus ARP Astrans pour ceux qui nous écoutent.
Alors, ARP Astrans accompagne la transformation de la société par un immobilier durable et résilient. Aujourd'hui, ARP Astrans existe depuis bientôt 30 ans. Nous allons fêter nos 30 ans l'année prochaine. Et nous avons des missions de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de programmation, d'ingénierie environnementale, de biodiversité et d'aménagement des espaces de travail.
Tout un programme. Donc vous êtes vraiment au cœur du réacteur. Ce qui est intéressant finalement dans votre métier, c'est que vous êtes, une polytechnicienne au sens propre du terme. La polytechnicité ou une polydisciplinarité, voilà. Quelque part. Ça s'apparente à une forme de couteau suisse. Vous avez une connaissance empirique finalement sur la transformation de la ville. C'est bien le sujet du jour. On entendra aussi dans cette émission Jacques-Alain Benisti, qui est conseiller délégué auprès du président en charge du suivi Inventons la métropole du Grand Paris et des grandes opérations métropolitaines. Et bien sûr, pour nous accompagner, notre super directeur des programmes délégué journaliste, Nicolas Tarade, le producteur de l'émission. Ça va, Nicolas?
En pleine forme. Bonjour à toutes et tous.
Alors, Nicolas, au menu d'aujourd'hui?
Au menu aujourd'hui, on va balayer toute une thématique, trois séquences. Une première séquence sur le logement, une deuxième séquence sur le lieu de travail. On définira, on posera un cadre sur ce qu'est un lieu de travail aujourd'hui. Et puis une troisième séquence beaucoup plus portée sur l'immobilier de commerce, sur les petits commerces, sur la digitalisation toujours croissante, on l'a vu avec la pandémie mondiale. Donc un joli programme pendant ce podcast, City by CIMI. Mais Sylvain, ce que je vous propose, c'est peut-être donner la parole directement à Aminata Si, cette directrice du CIMI et du City by CIMI, peut-être pour nous présenter un petit peu l'ADN, l'esprit de cette série de podcasts.
Alors, je vais déjà vous présenter le City by CIMI. Alors, City by CIMI, c'est un nouvel événement qu'on lance cette année en concomitance du CIMI, qui aura lieu 8, 9, 10 décembre au Palais des Congrès. En fait, avec les équipes du Salon des maires, des collectivités locales et les équipes du CIMI, on a fait un constat, grâce ou à cause de cette crise, où beaucoup de choses se sont accélérées, une prise de conscience, beaucoup de doutes, et on l'a vu notamment avec les élections passées du mois de juin. On a eu des villes qui sont devenues écologiques. Donc une prise de conscience aussi sur les enjeux, les mutations des villes. Et on s'est rendu compte que l'industrie immobilière, le secteur immobilier, pouvait accompagner les métropoles et les territoires dans ces enjeux et être à avoir un dialogue entre ce secteur de l'immobilier et les métropoles. Donc c'était le lieu évident pour nous pour permettre ce dialogue en proposant ce City by Simi avec des grands partenaires comme des métropoles. Donc Jean-Luc, nous avons la métropole de Aix-Provence-Marseille, si je ne me trompe pas, qui est partenaire de l'événement, et d'autres métropoles encore. Donc voilà, et puis on va avoir une série de podcasts avec vous, Nicolas, vous, Sylvain, pour un peu plus approfondir les différents sujets, parce qu'on a beaucoup de sujets avec le City by Simi.
Alors, le message est très clair, Nicolas. On sait qu'aujourd'hui, avec la pandémie qui a frappé le monde, qui est un événement tragique, mais un peu aussi inédit dans l'histoire, puisqu'on s'attendait tous, finalement, à avoir quelque part une vie heureuse, et la nature s'est rappelée à nous de façon assez violente et a transformé durablement les usages, notamment en matière immobilière. Quand on fait le bilan de tout cela, Béatrice Moelle, qu'est-ce qu'on peut en retirer, vous, à la tête d'Arrière Pénastrance, avec la sortie du tunnel qui s'annonce, avec heureusement des dispositifs de vaccination à l'échelle mondiale, ça vous inspire quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on a pris conscience de ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été une formidable leçon d'humilité qui accompagne de façon beaucoup plus forte maintenant la volonté de transformer la ville avec les enjeux climatiques qu'on connaît?
Tout à fait. Je pense que il y avait déjà une certaine prise de conscience sur les questions environnementales, sur la transition écologique, sur les problématiques d'adaptation au changement climatique. On en avait déjà fait un sujet sur un des CIMI précédents. Et donc, cette crise, effectivement, nous a certainement appris l'humilité. Finalement, nous ne sommes pas tout puissants. Il y a des petites bactéries qui sont plus fortes que nous. Et nous avons, cette crise a accéléré de manière très significative cette prise de conscience. Et je pense que c'est quelque part une bonne chose. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui sont conscients qu'on ne peut plus continuer comme avant, qu'il faut décarboner la ville, il faut faire cette transition énergétique absolument indispensable. Et il faut aussi s'adapter parce que le changement climatique, il est là. On a déjà émis beaucoup de carbone et donc on va forcément avoir des températures qui vont augmenter. Et donc, il va falloir adapter, et l'immobilier doit s'adapter et doit être vivable pour les années à venir.
Je pense que c'est une excellente définition qui nous permet, mon cher Nicolas, d'entrer dans le vif du sujet, justement. C'est parti pour les défis du logement dans les villes de demain.
CIMI News, le magazine de l'immobilier d'entreprise, en coproduction avec le CIMI sur Radio Immo.
Jean-Luc Chauvin, vous êtes avec nous en direct et en duplex depuis Marseille. La question du logement est une question centrale dans les métropoles. La grande leçon, effectivement, et qui a peut-être même été une leçon d'humilité, c'est de comprendre que les gens se sont rendus compte qu'en fait, ils connaissaient mal leur logement. Parce qu'ils n'y vivaient pas forcément tout le temps, parce qu'effectivement, le travail, le domicile, c'était des lieux de transit. Le confinement a eu pour particularité de faire en sorte que les gens redécouvrent leur habitat, avec les limites que l'on connaît, avec les effets liés, par exemple, à la promiscuité, aux problématiques de l'espace, de l'air intérieur, de l'air extérieur, de l'énergie, du vivre ensemble aussi, dans la copropriété, dans l'habitat collectif. Vous, Jean-Luc Chauvin, à la tête de la CCI, dans une région extrêmement importante, qui fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre, surtout en ce moment, vous savez pourquoi. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous, à la fois avec une vision politique, mais une vision aussi pragmatique dans la ville?
La première chose, c'est qu'en fait, on a redécouvert nos logements. On a été contraints d'y vivre, on a été contraints d'y rester confinés, et on a redécouvert nos habitats, nos intérieurs et notre cellule familiale. C'est les deux premiers éléments pour moi, et ça nous a obligés probablement à se positionner différemment, à percevoir les choses différemment. Habituellement, on passe la plus grande partie de la journée à l'extérieur du logement. On se retrouve en famille le soir pour un moment plus ou moins convivial, avec une durée qui n'est pas forcément très longue. Là, on a passé la journée entière tous ensemble. Donc, on a découvert la promiscuité, on a découvert tous les sujets que vous avez évoqués, ensoleillement, capacité à faire, mais on a dû aussi travailler à la maison. Et donc, on a regardé les équipements techniques, les connexions au réseau Internet, le haut débit, les outils, et puis aussi la possibilité de s'isoler pour travailler. Certains d'entre nous, malheureusement, ont dû se retrouver dans une salle de bain pour pouvoir faire une visio de boulot parce qu'ils étaient bloqués, d'autres pas. Et donc tout ça a posé un nouveau regard, je crois, une nouvelle prise de conscience de l'importance de l'habitat, de l'importance du chez-soi, de l'importance d'avoir une qualité à l'intérieur de son domicile pour pouvoir s'y retrouver, pour pouvoir être épanoui, pour pouvoir aussi vivre dans une famille qui a des activités à des moments qui peuvent être les mêmes. Donc ça, c'est la première, pour moi, la première leçon la plus importante. À travers le logement, les parties privatives, vous avez parlé des parties communes. Ben oui, là aussi, on a découvert qu'il y avait des parties communes. On a eu besoin de peut-être aller de temps en temps s'aérer en fonction des possibilités qui étaient prévues dans les confinements. Et entre les confinements aussi, parce qu'un certain nombre d'entre nous sont restés en télétravail entre les confinements, plusieurs jours par semaine, en totalité, avec des modes de vie et des rythmes de vie différents. Et donc, on a regardé la proximité, par exemple, pour aller faire des courses. On a regardé la proximité pour pouvoir trouver de quoi se nourrir. On a regardé la proximité pour aller éventuellement prendre l'air dans un espace un peu plus agréable, un parc, un jardin. Et donc, tous ces sujets qui n'étaient pas finalement, qui n'étaient plus finalement au cœur des préoccupations principales de chacun d'entre nous, sont devenus en l'espace d'un an comme notre zone prioritaire de réflexion. Notre distance par rapport au commerce, le fait de pouvoir faire les choses à pied ou pas, le fait d'avoir besoin des transports en commun, voilà, le fait d'avoir des installations numériques à domicile pour pouvoir travailler de grande qualité, le fait de pouvoir avoir une pièce où on peut plus ou moins s'isoler une partie de la journée, sans que toute la famille soit obligée de rester en silence complet parce qu'on a un moment de travail. Toutes ces questions-là sont devenues centrales dans nos vies depuis le début de cette pandémie mondiale qu'on a connue.
Alors, merci Jean-Luc. Il y a une chose aussi pour compléter que j'aimerais préciser avec vous. Comme vous le savez, les métropoles ont un défi à relever qui est celui de la pression sur le bâti ancien pour un logement abordable dans des conditions décentes. Je m'explique. Le DPE, au 1er juillet, vous le savez, Jean-Luc Chauvin, devient opposable. Donc, pour la première fois dans l'histoire, on dote d'un outil juridique, un outil coercitif, le diagnostic de performance énergétique. Vous le savez, à Marseille, il y a eu beaucoup de copropriétés dégradées, des propriétés. Donc, on se rappelle tous l'événement tragique de la rue d'Aubagne, bien évidemment. Est-ce que vous, à la CCI, comment vous faites, si on devait faire un état aujourd'hui, pour essayer d'avoir plus de mixité à la fois sociale, d'endiguer aussi la pression sur le bâti ancien, notamment sur les loyers, qui est vraiment la question cruciale. Alors, vous le savez, il y a des villes aujourd'hui qui tentent l'encadrement des loyers avec voilà, des écoles très différentes l'une autre. On a Lille, on a Lyon qui fait des tentatives, on a Bordeaux qui travaille sur le sujet, bien évidemment. Quelle est votre approche, vous, à la CCI, par rapport à cette notion d'inclusion du logement pour tous, d'un logement abordable et surtout d'un logement décent dans des métropoles où il devient, faut le dire, absolument impossible de se loger dans de bonnes conditions quand on n'a pas des revenus conséquents.
Le phénomène que l'on a vécu au cours des 30 dernières années a fait en sorte qu'on a travaillé, on a étalé nos villes. Et en étalant nos villes, on a créé des différences. On n'a pas forcément aujourd'hui un bâti dans les centres-villes historiques qui soit qualitativement au niveau de ce qui se fait dans le neuf. Malgré la loi SRU, qui devait donner les moyens de reconstruire la ville sur la ville, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire de travailler, de permettre d'avoir des bâtiments au nouveau niveau de standard actuel qui se construisent avec peut-être un peu plus de hauteur pour éviter cet étalement qui représente beaucoup de difficultés, puisqu'après ça pose des problèmes de transport, ça pose des problèmes d'école, ça pose beaucoup de problèmes. On voit bien que cette loi n'a pas clairement modifié la trajectoire des villes. Et on arrive aujourd'hui dans des villes où on a des différences très importantes en fonction de quartier et où on a une pression pour trouver des logements qui fait monter mécaniquement le prix, alors que le niveau de confort, que le niveau d'isolation thermique, par exemple, vous parliez du DPE, que le niveau des équipements à l'intérieur du logement n'est pas conforme à ce qui se fait aujourd'hui. Donc on a pris un retard colossal sur le niveau, je dirais, sur le parc, sur la qualité du parc locatif de nos centres-villes. Et je crois qu'on n'a pas 40 solutions. Il faut accepter que nos gouvernants, nos collectivités territoriales qui sont en charge, et les métropoles ont une partie de ce sujet à prendre à bras le corps à travers les PLU, qui sont en charge de ces sujets, changent de braquet, changent de vision. Il faut donc créer pour ça, il faut préempter, il faut récupérer du logement, il faut récupérer des ensembles immobiliers entiers et autoriser dessus des constructions nouvelles au nouveau standard. Parce qu'en fait, tout le monde a envie de vivre dans un logement nouveau standard. Personne n'a envie de vivre dans un logement qui a été construit au début du siècle ou dans la première moitié des années 50, entre 1900 et 1950, qui n'est plus aujourd'hui tout à fait adapté. Parce que même s'il a été remis au bout du jour, rénové, comme on dit, il n'a pas les standards de qualité de construction, de qualité phonique, de qualité thermique. Il n'a pas les équipements que l'on peut trouver dans un nouveau logement. Ça va encore plus s'accélérer à l'avenir avec les transitions qui sont en cours en matière, de consommation énergétique et en matière aussi de nouveaux usages, de nouveaux outils. Donc la solution pour pouvoir permettre de rester en ville et de permettre à tout le monde d'être en ville, parce qu'après on a une limitation qui se fait comme il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, c'est le prix qui vient réguler ça. C'est vrai dans le parc locatif, c'est vrai dans le parc de propriété, pour les propriétaires. Et donc la seule solution, c'est de recréer la ville vraiment sur la ville. Et donc il faut une vraie politique urbanistique, foncière de la part des collectivités qui récupèrent du foncier, qui constituent en fait du foncier qui est aujourd'hui diffus dans les villes pour en faire des blocs homogènes et qui permettent de faire de nouveaux logements. Avec un sujet qui est que pour pouvoir satisfaire tout le monde, il va falloir certainement créer, monter, aller plus haut, faire plus d'étages et que ça pose un problème directement aux électeurs des collectivités qui doivent prendre ces positions. Et que souvent, ça fait l'objet de recours, ça fait l'objet de pression sur l'élu qui va demain, 5 ans après, 6 ans après, devoir remettre en jeu 3 ans après son mandat. Et qui, du coup, est emprunt là où il pourrait faire, dans les documents d'urbanisme, 7, 8 étages, à n'en autoriser que 5 ou 6. Mais les étages qui manquent, c'est des logements de qualité, au standard d'aujourd'hui, qui ne sont pas sur le marché. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on a une véritable responsabilité qui, quelque part, est issue de la loi de décentralisation, alors que je suis favorable aux décentralisations, mais qui fait que le fait que celui qui donne l'autorisation et celui qui va remettre en jeu 5 ans, 6 ans, 3 ans après son mandat, il est emprunt quelque part à un sujet de pression locale, sachant que c'est souvent les mêmes personnes qui vont réclamer des logements pour leurs enfants, des logements au nouveau standard pour leurs enfants, pour leur famille, pour leur entourage. On connaît un peu schizophrène en tant que citoyen dans ce comportement. Il faut absolument que les pouvoirs publics, les collectivités territoriales qui sont en charge de ces sujets reprennent la main et montrent qu'on peut faire des logements on peut faire plus des bâtiments plus hauts avec des logements de qualité qui n'abîment pas, je dirais, la qualité de vie de l'ensemble du quartier, mais qui au contraire participent à l'améliorer et qui participent derrière à apporter une vraie solution pour l'ensemble de nos concitoyens. Donc il y a un vrai changement. Parce qu'on ne pourra pas continuer à utiliser des espaces vides pour faire des bâtiments, parce que de toute façon, on n'en produit pas suffisamment. Et on n'arrive pas au résultat que l'on souhaite. Donc il faut vraiment là-dessus qu'il y ait un changement de politique et qu'on accompagne, nous, monde économique, nous, dans nos entreprises, nous, surtout citoyens, qu'on comprenne que cette schizophrénie du citoyen n'est plus possible parce qu'elle conduit à des comportements où on s'éloigne de plus en plus des centres-villes, où on met de plus en plus de temps pour venir travailler ou pour repartir chez nous, où on a une fatigue physique et une fatigue en matière de santé, où on pollue d'autant plus notre planète, où on passe de plus en plus de temps à rester dans cet enfer plutôt que profiter de notre cellule familiale, de notre vie et de nos loisirs. Ça ne correspond plus aux aspirations des jeunes générations et ça ne correspond de moins en moins aux aspirations des générations de mon âge.
Jean-Luc Chauvin, moi je suis ravi que vous posiez le débat sous cet angle-là. Aminata, on est d'accord qu'on peut tous dire. On est d'accord. On peut tous se dire. Donc, vous avez dit deux choses, et c'est à vous que je m'adresse, Béatrice. On a parlé de la temporalité du mandat électif du premier magistrat de la ville, un mandat de 6 ans. Effectivement, quand on est dans une logique de construction, ça colle pas, quoi, hein, bien sûr. Et que, bien évidemment, la dernière année qui précède la réélection, il n'y a plus de grue dans les rues. Les permis de construire ne sont plus signés, etc. Je donne un chiffre, hein, 53% de permis de construire en moins sur l'année qui vient de précéder. D'accord ? Pour retrouver le même niveau de construction neuve, en crise, il faut revenir à 1982, je dis bien 1982. Le niveau de production de logements français n'a jamais été aussi bas historiquement. Vous le savez, et on se bat. Alors, verticalité ou horizontalité, étalement urbain. Deuxième chose, il faudrait qu'on réfléchisse là-dessus sur des choses très concrètes. La circulaire ZAN. Mais oui, ZAN, il faut parler. Alors, ZAN, ce n'est pas du réglisse. Hein. C'est zéro artificialisation nette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus, pour préserver la biodiversité, pour réinviter la nature, ce qui est une très bonne chose. Hein. Moi, j'adore hein, les abeilles dans la ville, les fleurs, des fraises, des cerises, etc.
C'est nécessaire.
Oui, nécessaire, bien sûr. Il faut respirer, etc. Ouais. Sauf qu'il faut loger nos administrés, il faut loger les habitants.
Bien sûr.
Comment on fait pour les loger? La deuxième chose, c'est qu'on avait qualifié, comme ça, ça nous pose un débat, on nous avait dit, il y aura un exode urbain, vous savez, Béatrice. On va fuir les villes parce que c'est trop petit, c'est cher. Je vais aller à Tours, à Angoulême. Je vais aller à Nantes, qui a le vent en poupe. Il y a d'autres villes, hein, comme Brive-la-Gaillarde. Incroyable, mais Brive-la-Gaillarde qui tire son épingle du jeu. La ville de Limoges, de notre ami Nicolas Tarade, etc. etc. Il n'y a pas d'exode urbain. Il y a effectivement une volonté des populations de s'éloigner effectivement des centres urbains. Le télétravail a modifié les choses. Mais soyons clairs, Béatrice. On construit une ville. Est-ce qu'on choisit l'étalement ou la verticalité? La verticalité, comme disait feu Jean-Philippe Ruggieri, plus haut mais plus petit. Il faut consentir à réduire l'espace. Quand on sait aujourd'hui qu'on a vécu ensemble pendant un an avec des foyers de 2-3 enfants dans 60 mètres carrés, parfois moins, avec un état de promiscuité, franchement, quand j'entends Jean-Luc parler de verticalité, alors j'adore ce qu'il dit, mais moi, ça me pose souci quelque part. Vous, qu'est-ce que vous en pensez avec tous ces éléments?
Alors, nous, nous sommes très orientés sobriété foncière, c'est-à-dire contre l'étalement urbain.
Donc, la verticalité, c'est votre
donc,
truc
la, reconstruire la ville sur la ville, c'est densifier, mais c'est aussi peut-être recréer des vides pour pouvoir donner ces espaces dont on avait besoin pendant le moment où on était confinés. On avait besoin d'avoir une vue sur l'extérieur, on avait besoin de lumière, on avait besoin de pouvoir ventiler son espace, mais... je pense qu'il faut arrêter d'étaler parce que c'est très mauvais pour la biodiversité, vous l'avez dit, mais c'est aussi mauvais pour la partie transport qui représente quand même en termes d'émissions de carbone une densité très importante. Donc il faut réinventer la ville sur la ville. Alors vous avez parlé de l'exode. Il n'y a pas eu un exode, mais moi je vois.
Non, il n'y a pas eu d'exode.
Il n'y a pas eu d'exode,
mais quand même des chiffres.
À l'échelle de ma petite entreprise, il y a quand même 4 ou 5 collaborateurs qui sont partis s'installer dans une ville de province. Et qui viennent 2 jours par semaine.
Donc ça reste significatif quand même.
Donc pour moi, c'est pas anodin.
C'est pas anodin.
Non.
Est-ce qu'aujourd'hui, Béatrice, on le voit bien aujourd'hui, le télétravail s'est imposé brutalement, on peut le dire. Hein,
oui.
Brutalement. On en parlait depuis des années, hein, mais c'est imposé brutalement. On voit bien que les villes qui sont les villes qui ont la cote en ce moment, quand on fait le ranking sur les 10 premières villes, et on a les chiffres là-dessus, on voit bien que la connectivité, ça fait partie de la shortlist. C'est plus la sécurité comme avant, vous savez, on cherchait la bonne école qui va bien, etc. On veut l'espace, on veut la nature et on veut la connectivité. Ça réunit les 3 éléments. Est-ce que ça, c'est de nature, finalement, quelque part, à se dire qu'au lieu d'empiler la ville sur la ville, pourquoi on n'irait pas investir des territoires qui, aujourd'hui, sont en dénatalité, en démographie négative, et pas si loin de Paris, et pas si loin des centres urbains? C'est un vœu pieux de penser ça ou pas?
Pas forcément. Je pense qu'on peut imaginer rééquilibrer certaines villes de province qui sont fort agréables à vivre. C'est vrai qu'il y a autour de moi pas mal de gens qui cherchent à s'installer. Et donc, il faudra trouver dans les grandes métropoles, là où il y aura le siège de l'entreprise où on travaille, des lieux pour passer 24 heures, 48 heures. Donc des co-living, donc voilà, tout un nouveau type d'hébergement pour pouvoir accueillir ces populations qui seront nomades 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine.
Est-ce que vous êtes favorable aux tours?
Aux tours?
Les grandes tours?
J'ai un peu de mal, j'avoue. À titre personnel, je me verrais mal habiter dans une tour. Mais
pour vous, une taille raisonnable, c'est quoi? 5R plus 10?
Oui, quelque chose comme ça.
Pas plus?
Oui, je pense que c'est... Il y a un architecte que j'aime beaucoup, qui s'appelle Michel Raymond, qui dit un immeuble doit pouvoir fonctionner en mode dégradé. Ça veut dire quoi en mode dégradé? Ça veut dire sans ascenseur, par exemple. Donc 10 étages, c'est pas forcément sympathique, mais enfin c'est faisable.
C'est faisable.
35, c'est infaisable. Donc voilà. Donc je pense que pour habiter, sachant qu'en plus aujourd'hui on fait pas que habiter, on travaille aussi. Je pense que pour le logement, je ne suis pas forcément très favorable à monter trop haut.
Nicolas, vous voulez ajouter ?
Non, dans ce que vous avez dit, Sylvain, tout à l'heure, je trouvais ça très intéressant sur le logement inclusif. Oui. Comment on amène plus de mixité sociale ? Comment on inclut beaucoup plus dans le logement ?
Ah, comment ? Je n'ai pas malheureusement la
reste
réponse.
C'est une question compliquée, bien sûr, mais comment on tend vers cette situation, en tout cas ?
On va se dire les choses. La mairie de Paris a ouvert la brèche avec le BRS.
Absolument.
C'est du jamais vu. D'ailleurs, je poserai la question à Jean-Luc.
C'est un peu ce qui se passe à Londres.
Oui, alors, sauf que le système juridique par l'amphithéose à Londres est un système différent qui ne s'appuie pas sur le droit de propriété. Or, les Français ont créé le droit de propriété, comme on le sait, puisque c'était le premier slogan de la Révolution française hein, en 1789. Liberté, égalité, propriété. C'est devenu fraternité qu'en 1792. Donc la France a créé le droit de propriété. Le BRS, bah, réel et solidaire pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi ? Un organisme foncier solidaire qui préempte, clairement, hein, qui préempte, et qui dit, voilà, on sépare le bâti du foncier. Vous avez un bail emphytéotique, hein, le principe de l'emphytéose d'un point de vue juridique, pendant 99 ans, et vous achetez le mètre carré en plein Paris, dans un quartier super, à 5 000 euros du mètre carré. Ouais, voilà. Il y a eu 23 logements qui ont été mis en disponibilité pour l'éligibilité des familles. Vous savez combien de familles ont répondu ? 2785 familles ont postulé, soit pratiquement 10 000 personnes. Donc ce n'est pas un carton, c'est un méga carton, mais on peut comprendre pourquoi. Est-ce que, quelque part, on ne peut pas dire aux propriétaires « baissez votre loyer, essayez d'acheter moins cher », on ne peut pas réguler l'envolée des prix ? Est-ce que l'outil de l'État...
Moi, ça me paraît être un outil intéressant, très certainement, parce qu'on voilà, on avait fait aussi une après-midi sur l'immobilier inclusif. Je ne sais plus, c'était en 2019. C'est vrai qu'il faut de la mixité sociale, et c'est ça qui fait la qualité de la ville et du vivre ensemble. Donc,
ça vous paraît possible ? Vous êtes favorable au BRS et aux établissements fonciers solidaires ?
Voilà, moi, je trouve ça très intéressant comme solution, oui.
Vous parlez beaucoup chez ARP de sobriété foncière.
Oui.
C'est, d'un point de vue, pour Béatrice Moelle, c'est quoi la sobriété foncière ? C'est quoi une ville apaisée ?
Une ville où on arrête de s'étaler indéfiniment et de manger sur les terrains agricoles, sur la campagne, donc sur la biodiversité. C'est une ville où il y a de la mixité, je pense que c'est...
Est-ce que c'est une ville où on fait du vélo ?
Oui, par exemple. Oui, du vélo, de la trottinette, on marche, etc. Voilà.
La mobilité douce.
Moi, on parle beaucoup de la ville du quart d'heure. Je trouve que c'est un concept un peu bobo, peut-être.
C'est ce qu'on dit.
Mais en même temps, le concept est intéressant. C'est-à-dire que je vais au travail, je vais faire mes courses, je vais peut-être dans je ne sais quel équipement public pour un problème administratif, dans un rayon de 15 minutes à pied. Ça a du sens.
Vous connaissez bien l'industrie immobilière, Béatrice, et vous connaissez les grands acteurs. Est-ce qu'ils ont pris conscience de ça aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue capitalistique, on va dire les choses comme elles sont, on voit aujourd'hui des gros brokers, des grandes entreprises de l'immobilier devenir entreprises à mission ?
Oui.
On voit Gecina transformer 100 millions d'euros d'obligations en green bonds, vous savez ?
Ah oui, ils ont beaucoup de succès, les green bonds.
Alors, ça cartonne.
Ça cartonne.
Ça cartonne. On a aujourd'hui des sociétés civiles, des SCPI, de placement immobilier, notamment, je pense à une qui s'appelle Pierre Valsanté, à fonds de partage, vous savez, à fonds de partage. Donc avec une espèce finalement de mélange entre un capitalisme finalement plutôt post-capitalisme et une forme finalement, allez, je ne vais pas dire de philanthropie, ça fait peut-être un peu ringard, mais de soucis citoyens sociétal. Qu'est-ce qui se passe ? Les capitalistes deviennent des vrais citoyens à part entière
En tout cas, il y a une prise de conscience et je pense que les acteurs de l'immobilier tout d'un coup se sont rendus compte que ils étaient tellement dans la financiarisation de leur business model que ils oubliaient quelque part une partie de la société dans leur business model. Et je pense qu'il y a une certaine prise de conscience. De savoir quelle est la profondeur, la réalité, je ne m'y risquerai pas.
Je vais essayer quand même de vous poser les questions pour avoir le point de vue de Béatrice.
Nicolas, sur la ville du quart d'heure, Aminata.
Voilà, je voulais revenir sur la ville du quart d'heure. Évidemment, c'est intéressant, mais ça va devenir de moins en moins avec cet exode urbain. On ne va plus vraiment parler de ville du quart d'heure si on est...
Vous y croyez à l'exode urbain, vous ?
Comme le disait Béatrice, chez nous aussi, il y a certaines personnes qui vont partir vivre en province. En fait, il y a une prise de conscience générale. Il y a une prise de conscience générale avec l'industrie immobilière pour accompagner les territoires. Il y a une prise de conscience aussi individuelle des envies, ou même c'est devenu pour certains des besoins de vivre différemment. On nous parlait toujours de la qualité de vie, du mieux vivre. Et là, on est dans cette phase de transition où il y a des mutations, pas que dans les villes, il y a des mutations aussi individuelles. Et il y a des besoins qui s'expriment sur le besoin d'aller vivre ailleurs, d'aller vivre dans des espaces beaucoup plus verts, d'aller en province. Et on a ces grandes métropoles où on a l'ombre de Paris qui est présente, où on peut être en télétravail 3 jours et 2 jours au bureau. Donc là, on parle, en tout cas pour le travail maison, on ne va plus vraiment parler de ville du quart d'heure. Ça va être différent, ça va être la ville du quart d'heure peut-être pour l'école, et même si, comme tu le disais Sylvain, c'est plus des questions que les futurs propriétaires se posent, où est l'école, c'est plus comment est relié en connectivité le logement où je vais aller vivre, parce que il y a cet esprit de télétravail et il faut pouvoir être relié, pouvoir travailler en fait. Donc évidemment, c'est intéressant et on pourra en parler sur d'autres plateaux, d'autres podcasts, mais j'ai l'impression qu'aussi, ça va évoluer.
Bien sûr que ça va évoluer, c'est certain. Jean-Luc Chauvin. Oui. Alors, Jean-Luc, alors, je sais que il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous aimez réagir, mais j'aimerais aussi vous donner la piste suivante. J'aimerais avoir votre avis sur ce qui s'est passé à Paris avec le BRS, le bail réel et solidaire. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous pensez que c'est un bon outil? Aussi, alors moi je rappelle que vous êtes d'abord un entrepreneur, bien évidemment élu à la CCI, mais vous êtes aussi un citoyen et je sais que vous êtes très impliqué dans votre ville. Vous êtes d'accord, Jean-Luc, que faut loger tout le monde, on est d'accord. Alors on n'est pas là pour dire, c'est pas l'école de pensée qu'il faudrait planifier la politique du logement. C'est pas ce qu'on dit. C'est un marché. Comment on fait lorsqu'on est à la tête d'une collectivité ou à la tête d'un organe comme le vôtre, pour essayer d'instiller ça, d'éviter la gentrification, même si c'est un peu pieux parfois, et d'essayer d'avoir plus d'inclusivité dans le logement. Alors en plus, à Marseille, vous avez la particularité d'avoir une population qui n'est pas dans le revenu médian parmi les plus riches de France, on peut le dire. Et vous avez un centre-ville particulier, singulier. Comment on fait pour trouver un équilibre dans tout ça?
Moi, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. Vous évoquez des solutions avec des solutions qui sont des solutions financières. Finalement, c'est vieux comme le monde. On a inventé une nouvelle façon de faire pour ne pas vraiment s'attaquer au sujet. On a dissocié le foncier de l'habitat. C'est une super réponse.
Ah, c'est vous êtes favorable.
Attendez, c'est une super réponse. Mais vous avez évoqué, ça existe avant depuis longtemps. C'est une réponse à un problème aujourd'hui. Donc, on apporte une réponse conjoncturelle à un problème structurel. Le vrai sujet. Il y a deux points. Il y a un premier point, c'est l'évolution des aspirations de la société, et notamment des plus jeunes, des millénaires. Vous parlez d'exode, vous parlez de changement. La réalité, c'est que les priorités sont en train d'évoluer très fort dans nos vies. Notre génération et celle des millénaires n'ont pas la même priorité. Les millénaires placent en premier. Nous, notre génération, place en premier. Avoir un travail pour pouvoir avoir une qualité de vie. Les millénaires placent en premier la qualité de vie. Les meilleurs diplômés d'entre nous aujourd'hui, placent en premier dans le choix de leurs nouveaux emplois quand ils sortent d'école, n'ont pas le salaire et la capacité d'évolution et la qualité de vie qu'ils vont avoir. Et le salaire et l'évolution professionnelle va venir après. Ce qui fait qu'il va y avoir des opportunités pour des villes moyennes ou pour des villes avec meilleure qualité de vie. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on ne va faire que reporter le problème qu'on connaît à la capitale dans les grandes métropoles françaises et par déconcentration sur les autres territoires, si on ne change pas les règles structurelles. Les promoteurs, les acteurs du secteur de l'immobilier sont prêts à changer de comportement. Ils sont conscients des comportements. Ils ont des collaborateurs au quotidien. Ils le voient bien dans leur recrutement. La difficulté, c'est qu'ils travaillent avec des documents d'urbanisme qui ont été faits par des collectivités et par des élus. Et il faut que nos élus changent la méthode de produire du logement qui, finalement, est la même depuis des décennies. Qui prennent en considération ces changements de société. Vous parliez de la hauteur. Moi, je vais vous répondre autre chose. La hauteur, ce n'est pas un problème. à partir du moment où dans mon environnement, je vais trouver de quoi avoir un parc, un espace où je vais pouvoir sortir à proximité, à partir du moment où je vais trouver des services. Et moi, je vais rentrer dans une autre conception, je pense qu'on est rentré dans l'ère du multi-usage d'un bâtiment. Je pense que dans un même bâtiment, on va pouvoir se trouver, par exemple, avec une conciergerie qui est encore un gadget, comme on le dit, mais aussi peut-être avec un espace de coworking qui fait que dans mon appartement qui fera 60, 70 mètres carrés, 80 mètres carrés, je ne vais pas être obligé de travailler, de faire ma visio de ma salle de bain parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a ma femme, mon conjoint, mes enfants qui sont avec moi. Mais je vais peut-être pouvoir descendre 3 étages, 5 étages, 10 étages plus bas et pouvoir m'isoler dans une pièce, dans un emplacement qui sera fait pour ça. Peut-être que je vais trouver du service public, peut-être que je vais trouver du commerce. En tout cas, je vais trouver de quoi à vivre. Et donc, il faut repenser notre façon de concevoir nos zonages, par exemple, où on dit ça, c'est principalement lié à telle activité, avec éventuellement à de l'habitation, avec éventuellement du logement, avec éventuellement du commerce en pied d'immeuble. Deuxième sujet, la mixité. Le seul facteur pour réguler le marché, c'est de produire du logement. Plus on a de logements produits en qualité suffisante, et plus les logements de mauvaise qualité, ou plus les locataires ou les acquéreurs pourront choisir, plus ce qui n'est pas au niveau et au standard ne pourra pas augmenter en prix, et ben ça.
Mais alors, est-ce qu'on fait de Jean-Luc, est-ce qu'on fait de l'étalement urbain, oui ou non? Parce que transformer que la ville sur la ville, c'est une bonne chose, mais on ne pourra pas loger tout le monde en surélevant. Hein.
Je ne suis pas d'accord avec vous. L'étalement urbain, ce n'est pas une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, ça a un coût social très important pour les collectivités et pour les habitants. Ça a un coût sociétal très lourd à gérer. On a parlé de côté environnementaux, on a parlé... Et puis surtout, ça éloigne du centre de vie. Donc on s'isole différemment. Moi, je crois, effectivement, je pense que l'on peut rouvrir la ville sur la ville en la pensant différemment. Par contre, la seule solution, du coup, c'est pas limiter forcément la hauteur, mais plutôt d'imaginer, de laisser l'imagination du secteur de l'immobilier pour créer des espaces de vie qui soient horizontaux, où on ait du multi-usage, où on puisse trouver des avantages. Toutes nos villes de province sont très peu hautes en hauteur. Et il va falloir imaginer que là où on est à du R+3, R+4, on passe à du 6 ou du 7. Mais si on multiplie par 2, quand on passe du 2, du 3 à du 6 ou du 7, par 2 ou par 2,5 tous nos centres-villes, on multiplie par 2,5 tous nos logements.
Jean-Luc,
et en plus, on ramène des logements de grande qualité.
Jean-Luc Chauvin, 48% d'augmentation de la demande de logements individuels, de maisons unifamiliales, de pavillons, de maisons.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas de qualité de vie. Quand vous êtes en centre-ville aujourd'hui, les collectivités ont laissé construire des centres-villes, mais c'est le même sujet que les aménageurs publics. Ils font les espaces publics très souvent après. On n'a pas pensé la ville pour y vivre. On a pensé la ville pour y dormir. Aujourd'hui, ce n'est plus une ville dortoir, c'est une ville dans laquelle il faut vivre. Il faut créer, il faut recréer dans des espaces. Il faut dire cet espace, il va être consacré à faire un parc. Cet espace, il va être consacré pour faire. La question que vous évoquiez tout à l'heure pour aller à l'école, je ne sais plus qui l'évoquait, je crois que c'est Aminata. On ne regarde plus vraiment pour aller à l'école. Ce qu'on regarde, effectivement, c'est la connectivité du bâtiment et si on regarde comment on va aller à l'école. Est-ce que je peux y aller en mode de transport doux ou est-ce que je suis obligé de prendre ma voiture et faire une demi-heure d'embouteillage? Est-ce que je peux y aller à pied? Est-ce que je peux y aller à vélo? Soit c'est les usages qui sont en train d'évoluer. Et il n'est pas impossible de rebâtir la ville en tenant compte de ces usages. Par contre, il faut que ceux qui sont chargés de créer le cahier des charges qui permet à l'industrie de l'immobilier d'intégrer ces éléments fassent ce job et aient le courage. Parce qu'effectivement, oui, c'est un courage politique qui est en rupture avec ce qui s'est passé. Mais c'est la leçon de cette crise. Cette crise, finalement, elle ne fait qu'accélérer ce que les générations de jeunes, les milléniaux, étaient déjà en train de vivre. Vous savez, c'est toute cette théorie, moi j'y crois beaucoup, qu'on appelle le salaire urbain. Un certain nombre d'universitaires ou de penseurs français travaillent autour de cette notion, qui n'est pas un salaire directement payé par l'entreprise, mais qui est lié à la qualité de vie, à la facilité pour amener ses enfants faire du sport, à la facilité pour nous-mêmes pouvoir faire du sport, à la facilité pour aller à l'école, profiter, à la facilité pour... Certains pays ont pris beaucoup d'avance sur nous, probablement parce que le climat était plus rude, mais ils ont créé des pieds d'immeubles avec des commerces où
oui.
Le commerçant vit au-dessus de son commerce, au-dessus, donc il a une amplitude plus importante.
Mais
il a créé des lieux où on peut avoir le journal, la bibliothèque,
absolument,
les éléments dans son concierge. Ils ont créé des lieux où on peut s'isoler pour travailler et sans être obligé de rester chez nous. On a pas mal d'expérience là-dessus. Il y a un certain nombre de groupes qui arrivent en France, qui sont des groupes du nord de l'Europe par exemple, qui travaillent énormément là-dessus, qui ont pris vraiment de l'avance. Et le sujet, je crois qu'il n'est pas tant... On est habitué avec notre prisme à vouloir fuir la hauteur parce que du coup, les rues sont petites, parce que du coup, on n'est pas bien, parce que du coup, effectivement, on n'a pas... On ne peut pas bien vivre en mode dégradé. J'aime bien cette expression. Vous savez que je suis professionnel d'immobilier, vous l'avez peut-être
oui,
dit.
Oui, bien sûr, bien sûr.
J'ai une vision avec ça. Mais le mode dégradé, c'est aussi de pouvoir vivre. Quand je vis une période où je suis confiné, où je ne peux pas sortir de chez moi, où je peux vivre dans un espace, dans mon ensemble immobilier, je vais trouver ce dont j'ai besoin, ce qui m'est vital. Le c'est problème d'avoir de l'extérieur, on est capable de créer des appartements avec terrasse ou avec de l'extérieur ou avec grande baie vitrée. Si vous êtes à 3 mètres ou à 5 mètres de la rue, de l'immeuble d'à côté, vous n'avez pas de sensation d'avoir de la visibilité. Si vous êtes à 10 mètres, vous avez une sensation. Donc, il faut vraiment repenser la ville différemment. Alors, ce que je dis, ça paraît utopique, bien sûr. Je suis en plus un peu provocateur et j'aime bien ce rôle aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut inciter, et dans le cadre de ce que vous avez lancé, Aminata, si avec le CIMI, avec les métropoles, il faut les inciter à prendre leurs responsabilités.
Bien
ils
sûr.
Doivent concevoir la fabrique de la ville de demain. Les professionnels de l'immobilier, je suis certain qu'ils seront au rendez-vous. Si les cahiers des charges leur sont donnés, et d'ailleurs, quand ils font des propositions qui sortent du cahier des charges, on leur dit non, 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 surtout pas, restez dans le cahier des charges. Et le cahier des charges, on le fait de la même façon depuis les années 70. Donc en réalité, on ne tient pas compte de l'évolution. Moi, je crois que le premier vrai sujet, c'est qu'il faut que dans nos documents d'urbanisme, il faut que nos services urbains, il faut que nos élus en charge de ces documents tiennent compte de l'évolution de la société.
Jean-Luc.
Et oui, je suis contre l'éparpillement. Et oui, je pense qu'il faut recréer en centre-ville des poches de vie, des poches de respiration, des poches de bien-être. Et c'est tout à fait possible, à mon avis.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'expérimentations qui ont été faites. Vous faites ça certainement allusion aux expérimentations qui ont été faites dans le nord de l'Europe, à Oslo, à Copenhague, à Stockholm, par exemple, mais aussi...
À Varsovie, par exemple.
Oui, par exemple, excellente.
À Londres, l'ancienne friche passe les espaces olympiques.
Absolument. Mais oui, on peut ne pas aller si loin que ça. On peut prendre, par exemple, ce qui a été fait sur le port de Strasbourg, où, pour la première fois de l'histoire, Strasbourg maintenant s'arrête au pont de Kehl, hein, qui est donc sur lequel on a transformé effectivement ces friches. Vous vouliez réagir, Nicolas ?
Réagir, faire une transition, parce que je trouve ça extrêmement intéressant et pertinent, le discours de Monsieur Chauvin. Et peut-être pour ajouter ce concours, cette troisième édition du concours de la métropole du Grand Paris, inventons la métropole du Grand Paris avec Jacques-Alain Benesti, qui nous a accordé une interview d'ailleurs pour cette émission. On va l'écouter. Et c'est intéressant ce qu'il dit aussi à l'intérieur de cette interview. Il parle de reconversion des friches industrielles, il parle de la transformation de bureaux en logements, il parle de cette société multi-usage, c'est-à-dire descendre en bas de son immeuble, avoir un service public, avoir des commerces, avoir un espace de coworking, pourquoi pas.
Donc
je trouve ça intéressant
et hôtel,
la transition est assez bien trouvée.
Avoir une centralité différente, c'est-à-dire qu'en fait, avoir plusieurs centralités.
Mais repenser la vie pour vivre, on vient de le dire.
Tout le monde converge vers le QCA, vous savez, quartier central des affaires, on nous a bassiné avec ça, c'est vrai, ou les centres urbains dans lesquels on n'allait que dans un seul endroit. Pourquoi on n'inventerait pas culturellement des endroits différents où chacun peut aller, voilà.
Eh ben c'est le sujet, en tout cas.
Voilà, des vrais lieux de vie. Voilà, des vrais lieux de vie et qui ne se concurrencent pas uniquement par la qualité, l'argent, le niveau social, etc. Pourquoi pas ? C'est un peu utopique, je veux bien le croire.
C'est un peu utopique, mais ça le mérite qu'on l'écoute, d'ailleurs, en tout cas. Jacques-Alain Benesti, conseiller à la métropole du Grand Paris, en charge de cette troisième édition du concours. On l'a enregistré il y a quelques minutes. Bah, je vous propose qu'on l'écoute et puis on en discute après, on débriefe, on analyse avec nos invités en plateau.
On écoute.
On s'inscrit tout naturellement dans la continuité d'Aventure la Métropole 1 et 2, dans cette même dynamique, notamment du plan de relance métropolitain, mais avec quelques différences par rapport au 1 et au 2, puisqu'on va s'orienter avec différentes stratégies, notamment les aménagements autour des gares, notamment cette stratégie d'enlever un petit peu toutes les verrues que nous avons dans les différentes villes, soit de friches industrielles, soit de bureaux abandonnés depuis des années, voire des dizaines d'années, et auxquels on n'a jamais pu apporter la moindre solution, que ce soit en financement ou en aide de n'importe quelle institution. Donc, c'est vrai que c'est Inventons la Métropole 3, et différente évidemment des deux premières, puisqu'elle s'adapte à actuellement à ce qui vient de se passer, notamment cette crise sanitaire totalement inédite. Donc, autour des gares notamment, nous allons plutôt privilégier des espaces de coworking, des espaces de télétravail, de vie, je dirais, pour qu'on puisse s'adapter à d'éventuelles autres pandémies, par exemple, et aux modes de travail qui se sont inscrits suite à ce qu'on vient de passer pendant maintenant, depuis aujourd'hui, un an. Donc, on a beaucoup de demandes. C'est la raison pour laquelle, autour des gares, donc, tous les projets qui vont nous être proposés dans cette aventure de la Métropole 3 s'articulent principalement là-dessus. Après, il y a ce que je disais, donc, les verrues donc, qu'on a dans nos villes, c'est-à-dire c'est des terrains en friche, c'est soit des terrains en friche industriels, soit des bureaux qui ont été totalement abandonnés depuis des années et qu'on va essayer de reconvertir en logement. L'expérience qui a débouché justement de cette crise met le point sur un certain nombre de problèmes, notamment, vous savez qu'on dit souvent donc à des personnes, bon, il faut télétravailler, en plus c'est devenu avec le confinement une obligation, sauf qu'aujourd'hui on s'est aperçu que pour plusieurs de nos agents, notamment des collectivités, mais en particulier également dans les entreprises, une grande part des personnes ne veulent pas travailler chez eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vie familiale, il y a des enfants, etc. Et c'est évidemment extrêmement difficile. Par contre, on ne peut pas passer son temps non plus dans les transports. Donc, si on a donc décidé de créer donc, ces espaces de télétravail ou de coworking, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des espaces à proximité du domicile, mais pas dans le domicile. Donc, on pourra faire du télétravail donc, dans ces espaces et permettre à ces personnes de ne pas être dans un environnement quelquefois difficile, familial. Donc, ça, c'est ce qu'on a appris de la dernière année là, des trois confinements. Et c'est une forte demande que nous avons, notamment de la part des entreprises. Donc, on s'adapte véritablement complètement à cela. Après, effectivement, souvent, on a des administrés qui veulent avoir notamment quelquefois des services publics à proximité de la gare, ce qui leur permet soit à l'aller, soit au retour, d'avoir ces services publics à proximité. Ça aussi, c'est une expérience qu'on a durant ces derniers mois, les crèches notamment. On ne veut pas aller courir à la crèche, porter son enfant, revenir après pour prendre le train. On veut que ça soit dans l'environnement autour des gares pour perdre le moins de temps possible. Donc, là aussi, on a varié les grandes orientations autour des gares pour essayer de mettre justement ces établissements de services publics pour essayer d'être plus à même de répondre aux exigences de nos administrés.
Ah ben c'est très intéressant moi, ce que dit Jacques-Alain Benesti, notamment sur cette proximité entre le lieu de travail, le lieu de vie. On sait que c'est notre deuxième séquence, on l'a dit en préambule de cette émission, le lieu de travail. Peut-être déjà poser un cadre sur ce qu'est un lieu de travail, parce qu'on peut entendre, et à mon avis, chacun ici sur le plateau et en visio a son interprétation du lieu de travail, mais peut-être la vôtre, Béatrice Moal, un lieu de travail. En quelques mots, est-ce qu'on peut résumer, est-ce qu'on peut dire de manière synthétique ce qu'est un lieu de travail ?
Alors pour moi, le lieu de travail est un espace distribué, c'est-à-dire qu'on peut travailler à son bureau, au siège de l'entreprise, on peut travailler dans un immeuble qui fait partie aussi du patrimoine de l'entreprise, on peut travailler dans un espace de coworking, on peut travailler chez soi, on peut travailler dans le train, on peut travailler dans le métro. Aujourd'hui, grâce à nos outils, on peut tous travailler absolument de n'importe où. On peut même travailler de la plage, pourquoi pas. Donc, l'espace de travail, maintenant, est totalement, grâce au digital, totalement distribué. Et donc,
pas pour tous les métiers, quand même. Hein.
Pas pour tous les métiers. Je parle des métiers, effectivement, des métiers plutôt tertiaires. Hein, oui. Tout ce qui est... Mais globalement, il y a quand même beaucoup qui peuvent avoir cette capacité. Il y en a certains qui s'interrogent sur qui ont un peu de difficultés avec le management de la confiance, par rapport
ben oui,
au
télétravail. Ils ne voient plus les gens travailler.
On ne voit plus les gens travailler. Je dois avouer que de notre côté, on n'a vu aucune baisse de productivité pendant cette année de télétravail. Donc je pense que ce n'est pas un sujet. Simplement, je pense qu'il y a une adaptation. Il y a une, voilà, il faut changer aussi un peu son mode de management pour pouvoir vraiment utiliser cet espace de travail.
C'est important ce que vous dites par rapport au mode de management. J'en parlerai, donc on posera aussi la question à Jean-Luc Chauvin. C'est surtout le middle management qui est complètement déséquilibré, en fait, qui était là, en fait, pour avoir un relais avec le high management, le haut management, qui, là, se trouve complètement
déstabilisé,
on peut le dire. Il y en a même qui vont jusqu'à installer des trackers sur les ordinateurs. Il faut savoir aussi qu'il y a un cadre légal jusqu'au-delà duquel on ne peut pas aller, aussi, pour la sauvegarde de la vie privée, etc. Mais effectivement, quand vous avez un ordinateur qui s'allume à 19h30 et qui marche qu'une demi-heure, effectivement, on peut se poser la question légitimement. Il n'y a que dire finalement que le contrat de confiance est un contrat de confiance sans contrôle, ça serait un peu rapide, mais qu'on peut adapter effectivement le management. C'est ça que vous voulez
Absolument.
Dire en fait. On peut vraiment l'adapter avec un cadre de confiance. On ne voit plus les gens travailler, mais non, on attend qu'ils livrent leur boulot.
Au-delà de ça, on peut s'interroger en post-Covid, post-pandémie mondiale, on est en train d'en sortir plus ou moins. On peut s'interroger sur... on sait qu'on ne va pas tendre vers le 100% de télétravail non plus.
Non.
On sait qu'on va revenir plus ou moins à l'équilibre, que ce soit du 50%, 50%, du 70-30, du 60-40. Bref, on va revenir plus ou moins s'équilibrer. Comment, justement, inciter les gens à revenir sur un lieu de travail? J'entends lieu de travail, bureau.
Alors, si vous permettez, j'aimerais qu'on illustre ça avec les gens eux-mêmes. Voilà, on est allé dans la rue et on est allé poser la question.
Bah poser directement voilà, la question.
La question que vous avez posée, c'est vous qui vous en êtes occupé, Nicolas. Qu'attendent les salariés de leur environnement de travail? En fait, on s'est dit que pour. C'est vrai que c'est bien de discuter, de débattre. Bah, on va parler aux gens qui sont les premiers concernés, hein, quand même. On les écoute.
Moi, j'attends d'avoir de la flexibilité, pouvoir à la fois venir et à la fois avoir la flexibilité de s'organiser. Mi-temps télétravail, mi-temps présentiel serait parfait. Je trouve que c'est quelque chose à conserver et à répandre massivement. Pour moi, c'est un peu le futur des modes de travail et ça doit aussi s'inscrire dans le temps. Donc, je pense que c'est une bonne chose à conserver de la pandémie. Ça permet d'avoir de la flexibilité dans son organisation personnelle, de réduire le temps de trajet, du coup de gagner sur le confort et de l'efficacité ensuite au travail.
Moi qui viens de province, en fait, j'attends le retour au travail parce que contrairement aux grandes villes, on n'a pas beaucoup de trajets et je trouve que trop de télétravail, ça déshumanise tout. Le fait de ne plus voir ses équipes, ça peut créer une distance progressive dans l'organisation du travail.
Bah, moi, plutôt du télétravail. Je préfère avoir le calme à la maison, travailler tranquillement. Ça permet de plus d'autonomie, d'efficacité, être tranquille chez soi, tout en travaillant efficacement.
Ce qui manque, c'est le sens, finalement, le sens du travail. Travailler, c'est pas juste un job de 9 à 7, quoi. C'est une vie sociale avec des collègues, une interaction. Je ne veux pas que mon bureau il soit cloisonné. Je veux continuer à pouvoir échanger avec mes collègues. Après, il est clair que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont revu en tout cas leurs aménagements de bureaux, y compris leur aménagement d'entreprise. Est-ce que concentrer les entreprises dans les grandes villes, est-ce que c'est une solution viable dans la durée? Est-ce que la défense est un site qui va rester tel qu'il est, tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant? Je ne crois pas, personnellement. Donc il va falloir effectivement réinventer la vie au travail et la vie avec ses collègues.
Une réaction, Béatrice Moine?
Ouais, je pense que ça reflète assez bien la vérité. C'est-à-dire que les gens vont revenir certainement au travail. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher dans leur bureau qu'ils ne trouveront pas chez eux? Eh bien, ils vont d'abord chercher la culture de l'entreprise, parce que quelque part, il y a une identité d'entreprise et c'est là qu'on va aller la chercher. On va aller chercher à se former. On va aller chercher l'expérience aussi des autres. On va chercher surtout le lien de la communauté, que ce soit sous des formes formelles ou informelles. Et dans ce sens, je pense que l'aménagement des bureaux tel qu'il est aujourd'hui n'est plus vraiment adapté à ce nouveau fonctionnement. Donc il va falloir peut-être créer plus d'espaces de partage, que ce soit des salles de réunion, mais des salles de réunion qui soient hyper bien équipées, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui est à distance. Donc il faut qu'on puisse vraiment partager. Il faut penser les bureaux pour créer cette fameuse sérendipité dont on parle, c'est-à-dire créer le lien, les gens qui se croisent par hasard. C'est tellement plus facile de poser une question à quelqu'un qu'on croise dans le couloir que d'allumer son Teams et de lui poser la question pour avoir l'information. Mais il n'y aura pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi des temps dans une journée où on est au bureau, où il faut être seul, concentré, préparer une réunion, préparer un interview. Et donc, il faudra aussi prévoir des espaces de concentration, des espaces de silence. Donc, je pense qu'il y a certainement un rééquilibrage à trouver. Peut-être qu'on trouvera de moins en moins d'espaces de travail classiques, parce que ça, quelque part, peut-être, on le trouvera chez soi ou dans un espace de coworking. Mais voilà, pour moi, c'est un peu ça qu'on ira chercher au bureau.
Merci beaucoup, Béatrice. Une réaction, Jean-Luc Chauvin, vous avez écouté le micro-trottoir, le reportage aussi de Jacques-Alain Bénisti. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ?
Plusieurs choses. D'abord, le micro-trottoir, c'est le reflet de la réalité de la société aujourd'hui. On est en pleine évolution. On se pose beaucoup de questions, mais on cherche tous une nouvelle façon de faire. Il y a des nouveaux usages qui vont sortir. Par exemple, on parle de tiers-lieux de proximité. Le reportage précédent avec M. Bénisti l'évoque. On veut avoir des endroits où on va peut-être pouvoir travailler 2 jours, 3 jours par semaine sans être obligé d'aller au bureau, mais on n'a pas forcément envie de travailler chez soi parce qu'il y a aussi une pénétration de la vie professionnelle dans la vie privée, au-delà de la notion de confort. Il y a aussi des éléments. Et pour d'autres, ça ne pose pas de problème parce que peut-être ils ont la qualité de logement qui le permet ou peut-être ils ont la cellule familiale qui est adaptée s'ils sont seuls, s'ils sont deux, s'ils sont quoi. Donc, on va avoir tous les cas de figure. Ça, c'est le premier point. Et donc, le défi majeur des entreprises aujourd'hui, ça va être de répondre à ça, de répondre aux besoins de chacun. On rentre dans une société où l'entreprise avait un mode fonctionnement et les salariés y adhéraient, et on va passer dans une société où l'entreprise va devoir s'adapter aux aspirations des salariés. Vous avez déjà évoqué depuis un certain nombre d'années l'évolution de la génération X et Y qui fait qu'ils viennent dans l'entreprise pour une mission. Si la mission ne leur plaît plus, ils n'hésitent pas à changer. Ils viennent pour une mission, ça veut dire qu'ils sont capables de rester jusque tard le soir, même très tard, pour finir un travail, pour le rendre le jour dit à l'heure dite. Mais après, le lendemain matin,
on ne peut pas rentrer. Oui, bien sûr.
Et donc, on a un vrai changement de paradigme, et on a un choc culturel, générationnel, entre la génération du travail issue des baby-boomers et post, je dirais, jusque dans les années 90, et les nouvelles générations des années 2000.
Est-ce que vous voulez dire, Jean-Luc, qu'il y a une modification quasi anthropologique de c'est ça que vous dites ? Une nouvelle anthropologie ?
Il y a une modification anthropologique du rapport au travail qui dépend de la génération dans laquelle on est et qui dépend de la façon. Il y a une notion de sens différent au travail, il y a une notion de plaisir au travail, il y a une notion de « je travaille pour pouvoir vivre », génération précédente, à « je vis et j'ai juste besoin de travailler ».
C'est ça.
Ça change complètement la philosophie. Et je rajoute à ça que donc toutes les solutions vont être créées, notamment des tiers-lieux, avec un avantage qui fait très peur aux entreprises dans les tiers-lieux. Les tiers-lieux, vous savez, qui ne sont pas réservés à une seule entreprise, où vous allez avoir 3 cadres de France Télécom, 2 collaborateurs d'une start-up, un truc. Mais où vous allez avoir du coup des gens qui vont quand même garder cet aspect de vie sociale qui a été évoqué dans le reportage. J'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de vivre, j'ai pas... Non. Et par rapport à ça, le fait d'être ensemble d'horizons différents, d'entreprises différentes, on va pouvoir aussi évoquer nos difficultés. Et donc, on va pouvoir bénéficier des solutions des autres. Donc, on va s'améliorer, on va s'enrichir. Mais ce qui fait peur aux entreprises, c'est que du coup, le côté sécurité de l'information, du process web, va peut-être être diffusé. Et puis, j'ai le sujet de la sécurité informatique. Le défi du 21e siècle, ce sont les maladies, les virus, les bactéries côté sanitaire, mais aussi côté numérique.
Bien sûr.
Numérique. Et là, on a un sujet qui est colossal. Donc, on est au début. Enfin, franchement, moi, je trouve qu'on est au début d'une période fabuleuse. Je partage l'avis de Nicolas Bouzou, de quelques économistes qui considèrent qu'on est au début d'un baby boom. Qu'on est au début d'une explosion, qu'on va accélérer comme jamais, mais on va devoir complètement se réinventer. Et les leaders réussiront à se réinventer, des startups deviendront des leaders,
bien sûr.
Des petites entreprises réussiront, et d'autres s'effondreront.
C'est le principe.
Il va y avoir une agilité énorme. On est dans une période de mutation profonde. Ça s'applique au logement, ça s'applique au mode de vie. Le lieu de travail est devenu un lieu de vie. Et donc, ça veut dire qu'à côté du travail, à côté du couloir, il faut qu'on ait un endroit, une cafétéria, un endroit pour faire une pause, un endroit pour aller faire éventuellement 2 heures de sport entre midi et deux. Qu'est-ce qui fait le succès des espaces de coworking ? C'est la mixité, c'est le partage. Au début, on croyait que c'était fait que pour les petites entreprises, start-up ou autres. Et on voit bien que quand elles grandissent, elles veulent rester en
système. Absolument.
C'est le fun du bail 369.
Absolument. C'est intéressant ce que vous dites, parce que la question du bail 369, il y a aujourd'hui une commission qui a été formée par des parlementaires, parce que il y a un rapport qui a été publié où on démontre que le bail 369 est un frein à l'émergence de nouvelles entreprises. Eh oui. Et oui, 6 mois de loyer d'avance, des conditions de garantie, des prix au mètre carré avec qui sont rédhibitoires. Et effectivement, la notion de mètre carré commence à devenir complètement secondaire par rapport au poste de travail. Et donc, c'est le succès des conditions. Vous vouliez... Oui, pardon. Oui, Jean-Luc, vous vouliez compléter.
Compléter, bien sûr que la notion de bail est trop simple. Nos outils juridiques dans ce pays en matière immobilière sont obsolètes. Enfin, la notion de bail 307 est obsolète. En matière de commerce, l'histoire droit au bail, ça n'existe plus. Combien d'entreprises ont encore dans leur bilan une valeur de droit au bail qui ne vendront jamais.
D'ailleurs, la France est un des seuls pays à conserver le droit de bail et le pas de porte.
En retard, parce qu'on est un pays qui, globalement, est empêtré dans une législation qui empêche d'évoluer au même rythme que les aspirations de ses concitoyens. Donc, le bail 309. Et donc, qu'est-ce que veulent les gens? Vous l'avez dit, c'est le post-drive. Mais le post-drive, ils vont regarder quoi? Ils vont regarder s'ils peuvent descendre, aller faire un barbecue en bas de l'immeuble, chez moi, dans mon côté, ou une partie de boule. S'ils vont pouvoir avoir un espace. Mais ça fait partie de la qualité de vie, parce que pendant la demi-heure où je vais jouer au boule avec les 4 personnes avec qui je vais jouer au boule, peut-être je vais parler de 2 sujets, je vais résoudre un problème. Ouais.
Et ça, ça impose aussi. Et je vais même faire du networking pour faire un peu de business aussi, pourquoi pas.
Exactement. Et ça, ça va imposer une chose essentielle, c'est un changement du rapport au travail et notamment du management, notamment du contrôle.
Bien sûr.
On va rentrer dans une relation dans l'entreprise de responsabilité. Et là aussi, le code du travail empêche totalement ça. Quelles sont les questions qu'on s'est posées en tant qu'entrepreneur pendant le télétravail, pendant la crise sanitaire? On n'avait pas le choix. Mais quand il y a un accident, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les questions que les syndicats de salariés français ont posées aux employeurs? J'ai plus de frais parce que je reste chez moi. Donc, il faut me payer l'électricité à la maison. Est-ce que vous voyez le décalage
bien sûr.
Avec la réalité de la vie?
Bien sûr.
La réalité de la vie,
Jean-Luc Chauvin, on arrive au... Oui, Jean-Luc Chauvin, c'est un plaisir. Non, mais... Vous savez, il y avait un philosophe qui disait « On ne saurait résister aux accents de la passion ». Et ce qui vous anime, Jean-Luc, c'est la passion. Ne changez rien. Par contre, moi, je suis un peu frustré parce que j'aurais bien aimé vous entendre beaucoup plus, ainsi que Béatrice. Donc, j'ai une proposition à vous faire, c'est d'organiser une émission en face-à-face qui va durer 45 minutes pour qu'on puisse puiser en vous toute la substantifique moelle de votre pensée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jean-Luc ?
Je suis votre homme, c'est OK.
C'est adorable. Merci en tout cas. Voilà, on a un peu dépassé le délai. Il y a un sujet que j'aurais bien voulu évoquer, mais on l'évoquera dans nos CIMI News, parce que le CIMI News, c'est un rendez-vous, Nicolas, régulier.
C'est un rendez-vous régulier jusqu'au CIMI qui aura lieu du 8 au 10 décembre 2021 au Palais des Congrès à Paris.
On va quand même pas tout dire.
Surtout le City.
Ouais. Surtout le City. Le City, un salon concomitance avec le
CIMI. On ne va pas tout dire à nos auditeurs. On va leur demander de venir au salon.
Il y a un rendez-vous régulier sur Radio Imo tous les mois mensuels où on va essayer de décortiquer un petit peu toutes ces thématiques inhérentes à ces deux salons concomitants. Et peut-être Aminata, il est la mieux placée pour en parler.
Alors, juste, on aurait aimé parler avec Jean-Luc de sa fonction de CCI. Comment il accompagne aussi les commerces, puisque c'est un véritable sujet des métropoles. On est dans un parcours urbain et consommer est un vrai sujet. Donc je pense qu'on aura d'autres occasions d'en parler avec lui. Et le City by Simi ou Arpas Trans est parrain du parcours travaillé, dont tu as parlé également, Béatrice, avec ses sujets de télétravail. C'était passionnant. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Et comme tu disais, Sylvain, on est dans cette phase de mutation, dans cette phase de transition. Parce que beaucoup de choses vont se caler, vont se décider, puisqu'on arrive bientôt à un déconfinement complet, voir comment on va travailler, où on va travailler et comment on va travailler. Et tous ces sujets, je les trouve passionnants, aussi bien pour vous qui faites partie de l'industrie immobilière, mais pour tout le monde individuellement, parce que c'est des sujets qui nous touchent tous. Et c'est là où c'est passionnant et qu'on peut en parler pendant des heures.
Merci beaucoup, Nicolas. Donc, le prochain rendez-vous sera bien sûr sur les réseaux sociaux et vous pouvez récupérer le podcast, bien évidemment. Quelques mots de conclusion. Béatrice Moine, moi, je voudrais vous dire une chose, que je connais bien le métier depuis longtemps, depuis plus d'une vingtaine d'années. Je trouve qu'il n'y a malheureusement pas assez de femmes chefs d'entreprise dans ce métier, qui est un métier, il faut le dire, très, très masculin, mais qui s'ouvre un peu plus. Est-ce que de votre point de vue, vous qui incarnez aussi, même, peut-être même malgré vous, quelque part aussi le modèle, on n'est jamais tributaire de cela aussi, mais il faut le dire, et je le rappelle sans cesse, est-ce qu'on prend la bonne voie dans l'industrie immobilière ?
Sur le rapport homme-femme ?
Oui.
Oui, mais il y a quand même pas mal de femmes dans l'industrie immobilière.
Je parle des femmes à des fonctions.
À chef de projet, de direction. De projet. Bon, écoutez, chez nous, on est depuis des années.
Vous êtes à parité.
Beaucoup plus.
Non. Beaucoup plus.
Beaucoup plus. On est plutôt 60%. On a fait des progrès, c'est-à-dire qu'on a descendu de 65 à 60. C'est-à-dire...
Mais vos concurrents, les entreprises que vous croisez,
c'est vrai
objectivement, Béatrice, franchement, c'est un métier qui s'ouvre de plus en plus, on peut le dire ou pas? Quand même?
Je ne sais pas, j'espère. En tout cas, il y a des gens qui se battent pour ça, hein, qui créent des réseaux. C'est Janica, par exemple, qui fait beaucoup pour inciter les femmes à prendre des postes.
Le cercle des femmes.
Avec Stéphanie Ben-Simon. Il y a beaucoup de choses, mais Mika Brunel aussi est très embarquée sur ces sujets.
Après, c'est des compétences. J'aimais bien ce que vous aviez dit tout à l'heure.
Je n'ai jamais fait exprès de recruter des femmes. J'ai recruté des compétences.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, Béatrice, mais malheureusement, les chiffres, parfois, nous poussent à être obligés, peut-être, de donner des... Alors, je ne dirais pas des quotas, mais en tout cas, de dire les choses. Mais c'est pareil pour tout. Hein. C'est pareil pour les discriminations de quelque origine qu'elles soient. Je pense qu'on, dans la vision anthropologique que décrit Jean-Luc Chauvin, il y a aussi cet aspect philosophique du bien vivre ensemble, hein, de la copropriété. Oui, j'ai vu, je vais conclure. Voilà. Il me fait des gestes, comme ça. Il n'y a pas de souci.
Il est comme Jean-Luc.
Voilà.
Non.
J'ai trouvé mon mentor en Jean-Luc Chauvin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer par Radio Immo au CIMI News et au City by CIMI, bien évidemment. On se fera un plaisir, d'ailleurs, de vous solliciter à nouveau pour faire le portrait de Jean-Luc Chauvin. J'adore ce type de personnage qui nous donne envie, qui donne envie d'avoir envie. Encore une fois, c'est une très, très bonne chose. Merci à vous, Jean-Luc.
Merci à vous tous et merci pour votre invitation. Et je suis disponible, même pour le City by CIMI, pour venir challenger.
Je contacterai, je prends note.
Avec grand plaisir. D'ailleurs, le 11 au soir, je vous le dis, le 10 au soir, je suis chez Perron, sur la corniche. Voilà. Pour manger une... Parce que, voilà, ça va ouvrir le soir. On va être très bien à Marseille. Merci à vous, Béatrice. Moi, je rappelle que vous êtes la présidente d'ARP Astrance. ARP Astrance, vous retrouvez sur le site, sur Internet. Allez-y, c'est extrêmement intéressant. Et je dirais que c'est même visionnaire dans une certaine... bousculer les codes pour transformer cette nécessité aussi de la ville. Merci à vous, Béatrice. Et oui, s'il vous plaît, ne changez rien. Voilà. Ne changez rien. Merci à vous, ma chère Aminata.
Merci à vous, mon cher Sylvain. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés pour le CIMI News et notamment là, vraiment, le City by CIMI et d'avoir des intervenants impliqués et passionnés, comme vous disiez, parce que ça nous apprend beaucoup de choses et c'est inspirant.
Voilà, inspirant. Donc, la chose à faire, c'est d'écouter le podcast, le replay, télécharger, de venir au City by CIMI, au CIMI, bien évidemment, et d'aller sur le site d'ARP Astrance. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Merci à vous, Nicolas. Merci à Jacques-Alain Benesti d'avoir enregistré. Il avait un agenda extrêmement rempli. Merci de l'avoir interviewé. Régulièrement, vous aurez des reportages, vous aurez des PAD, vous aurez ce qu'on appelle les prêts à diffuser, des micro-trottoirs, parce qu'on va aller au contact des personnes pour leur demander ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles veulent, et on va en débattre. Et la vitalité d'une bonne démocratie, encore une fois, c'est le débat, une bienveillance, pas forcément de complaisance, mais une bienveillance avec un échange d'idées puissant et efficace. À très vite. Merci.
Retrouvez CIMI News, le magazine de l'immobilier d'entreprise, en podcast sur Radio Immo et le site du CIMI et sur toutes les plateformes de podcast habituelles.